ressuscité. À toi la victoire.
Bonjour à tous, et j'espère que vous allez tous bien. Alors que plusieurs églises se réunissent en ce dimanche de déconfinement, nous, Église de Blény, sommes face à un drôle de paradoxe. Notre église est petite, mais trop grande pour l'église que nous avons. Je m'explique. Nous sommes trop peu nombreux pour être une grande communauté, mais trop nombreux pour le local que nous occupons. En effet, au vu des conditions du protocole à suivre, nous ne pouvons pas encore ouvrir les portes de notre église en assurant toutes les mesures de précaution recommandées. Je vous souhaite donc la bienvenue dans la maison de Dieu en esprit avec l'Église universelle et aussi virtuellement avec ceux qui nous ont rejoints sur le site de l'Église protestante de Blény. Épître à Philémon, 3e verset, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Prions. Ô Dieu, nous voici réunis pour passer un peu de temps en ta présence. Bien que tu sois toujours avec nous, nous voulons nous mettre à part pour partager ce moment de méditation et de réflexion. Bien que séparés de nos amis, frères et sœurs, nous voulons être unis dans la prière que nous faisons monter vers toi. Garde-nous sous ton aile, et que ta gloire rayonne malgré l'agitation du monde entier. Renouvelle ta paix en ton Église réunie, au nom de Jésus. Amen. Vous est-il déjà arrivé d'avoir un verset en tête et d'être guidé vers un autre? Je voulais introduire ce culte par le fait que Dieu parle. Et le verset qui m'est venu est « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Mais ne connaissant pas la référence exacte, je la recherche et trouve Job 33, verset 14. J'ouvre donc ma Bible pour lire le texte en entier qui inclut ce verset, mais je me trompe et lis un autre passage que je vous partage. Psaume 33, verset 14. Je lirai à partir du verset 13 et jusqu'à la fin, dans la version second 1910. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme, les humains. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Dieu regarde la terre, il voit tout. Alors que mon regard à moi sur la terre, sur le monde, sur les événements, sur les décisions, sur les idioties des humains, me paralyse, me scandalise, me révolte, m'attriste. Dieu regarde aussi et voit certainement les mêmes atrocités que moi. Il sait que l'homme ne peut pas assurer son salut par ses propres forces. Rien ne peut lui donner la délivrance par ses propres moyens. Mais ce qui me réjouit, c'est qu'il observe ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Le but de Dieu n'est pas de retirer du monde ses enfants, mais de préserver leur âme de la destruction et de les faire vivre au milieu des manquements. Notre espérance est en Dieu. Il est notre secours. Rappelons-nous Job 33:14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi.
Devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ses enfants, je veux crier. Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier, mon Dieu,
Je passe maintenant la parole à Paul pour nous apporter le message que Dieu lui a mis sur le cœur. Si je vous ai dit que Dieu parle, Paul, lui, va nous conduire dans ses silences. Prions. Notre Père, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour ton regard sur nous. Mets ta main sur notre frère Paul qui va nous emmener dans tes silences, qui, je suis persuadé, nous parlerons aussi. Éclaire notre esprit et notre intelligence par ton Saint-Esprit, et qu'à toi revienne toute la gloire par le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen.
Chers amis de l'église de Blégny, je vous salue. Heureux de pouvoir vous partager quelques versets pendant ces temps de confinement. Nous lisons dans Habacuc, chapitre 1, le verset 2. « Jusque à quand, ô Éternel ? J'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. » On ne peut ni voir ni entendre Dieu, normalement. Pourtant Dieu se montre par ses œuvres, il parle par sa parole, par notre conscience, par son esprit. Mais rares sont les gens qui, comme Moïse, ont dû reconnaître la voix de Dieu au timbre de sa voix. Pourtant l'importance de la parole de Dieu se montre dans toute la Bible, déjà à la création, dans Genèse le premier chapitre, lorsque on lit « Dieu dit ». Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. 10 fois il est dit, Dieu dit. Toute la création a été fabriquée par la parole de Dieu. Et Christ lui-même est appelé être la parole de Dieu. Jean 1, 14, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Alors quand on parle avec des gens, on a souvent des remarques du genre, pourquoi Dieu laisse faire, pourquoi il n'intervient pas, pourquoi il se tait. Et souvent les gens qui vivent un malheur insurmontable, ils en veulent à Dieu. Et on n'a pas toujours une réponse valable à leur donner, car Dieu est Dieu. Et on ne peut pas façonner Dieu à notre façon. Puis il a une autre notion du temps de réponse. Il y a aussi cette difficulté pour le chrétien, qui veut toujours en toutes circonstances une parole de Dieu. Certains inventent les réponses de Dieu, ou prennent tout comme un signe de Dieu. Or, dans la Bible, il y a plusieurs passages qui abordent le silence de Dieu. Et c'est remarquable que son silence n'est jamais l'absence. Puis son silence n'est jamais définitif. Comme il est dit dans le psaume 50, le verset 3, « Notre Dieu, il ne reste pas en silence. » Le psaume 121, verset 4, « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Mais il y a dans la parole de Dieu des moments où Dieu se tait. Et psaume 83, le verset 2 dit, « Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas, ne te repose pas, ô Dieu. » Rien que dans les psaumes, il y a 10 références pour « Réponds-moi » ou « Réponds-nous ». Alors, voici quelques silences de Dieu qui pourraient nous aider à comprendre. Certains silences sont favorables, d'autres défavorables, humainement parlant. Et un premier silence de Dieu que l'on voit souvent dans la parole de Dieu, c'est le silence du jugement. Dans 1 Samuel 3, le verset 1, « Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare. » En ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. la parole était rare, c'est-à-dire elle n'était pas divulguée. Il y avait silence, silence radio. Et au psaume 50, il y a cette explication du silence de Dieu. La parole de Dieu aux méchants, verset 16, « Tu énumères mes lois, tu as mon alliance à la bouche, toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. » Et puis il y a plusieurs versets qui montrent les attitudes des méchants, ce qui blesse Dieu. Et voyez la conclusion de Dieu au verset 21, psaume 50, 21. « Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. » Le silence de Dieu suite à la désobéissance. Et il y a rupture de communication. Saül en a fait l'expérience amère à cause de sa désobéissance. Il est dit dans 1 Samuel 28, le verset 15, « Je suis dans une grande détresse. » C'est Saül qui parle. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a pas répondu, ni par les prophètes, ni par les songes. Le silence du jugement, le silence comme exercice d'autorité. On se souvient, à l'époque où on allait à l'école, qu'il y avait des profs qui ne faisaient que crier sur les élèves. Puis question de discipline, le résultat était plutôt médiocre. Mais parfois, on avait un prof qui montrait simplement son désaccord par le silence. Et souvent, ces profs-là avaient plus d'autorité, étaient plus efficaces. À l'époque de Samuel, Dieu ne parlait plus, mais il y avait quand même l'espoir. Il est dit dans 1 Samuel 3, le verset 3, « La lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. » Et Dieu va appeler Samuel jusqu'à 4 fois. Et Samuel qui croit que c'est Élie, parce qu'il est dit dans au verset 7, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Et finalement, Samuel va entrer pour la première fois en conversation avec Dieu. Au verset 10, l'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Cela doit nous faire réfléchir. Dans quelle époque vivons-nous? Est-ce que la parole de Dieu est rare? Est-ce que les visions sont peu fréquentes? Mais chaque fois que quelqu'un se lève pour entrer à nouveau en conversation avec Dieu, c'est comme des temps de renouvellement qui s'annoncent. Et il y a cette promesse d'Amos qui est certainement aussi valable pour notre temps. Amos 8, 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Bien sûr, le chrétien qui est né de nouveau échappe au jugement par les mérites de Christ, comme il est dit dans Romains 8. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Romains 8, 1. Et converser avec Dieu est le privilège journalier pour le chrétien né de nouveau. Deuxièmement, il y a le silence après la parole. Souvent, Dieu se tait parce qu'il a déjà parlé. Et ayant parlé, il attend qu'on exécute. Vous connaissez ces trois derniers versets de l'évangile de Matthieu, où il est dit au verset 18, « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et l'évangile de Matthieu s'arrête là. Un peu brusquement. Ce sont les trois derniers versets. Mais il y a tout dans ces versets-là, en conclusion. Le verset 18, il y a le pouvoir. Le verset 19, il y a le programme. Et le verset 20, la garantie de la présence. C'est complet. Jésus peut monter au ciel. Il a assez parlé. Et bien souvent, quand on se convertit, on attend. On attend pour s'engager, pour se faire baptiser, pour grandir, pour avancer vers la plénitude. Mais on attend quoi? On attend une autre révélation? Non, ce n'est pas nécessaire. Dieu a déjà parlé. Il suffit d'obéir concernant ce qu'on a déjà compris, ce qu'on a déjà entendu de sa part. Et Dieu se tait parce que il a déjà parlé et suffisamment. Comme il est dit dans Néhémie et Esdras, cette phrase magnifique, « Levons-nous et bâtissons !» C'est-à-dire « Agissons maintenant, avançons !» Et alors Dieu parlera encore davantage. Il y a troisièmement le silence obligé. Parfois Dieu est obligé de garder le silence. Dans le psaume 55, au verset 2 et 3, il est dit « Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi, gère ça et là dans mon chagrin et je m'agite. » David est vraiment agité dans ce passage et il abonde de paroles dans ses supplications, tellement qu'il parle et qu'il supplie le Seigneur qui n'a plus le temps d'écouter Dieu. Nous parlons parfois tellement dans nos prières que Dieu n'a pas de place pour parler, alors il se tait obligé. Dans le psaume 109, le verset 1, il est dit « Dieu de ma louange, ne te tais pas !» David dit à Dieu « Je te parle, je n'arrête pas, même dans mes louanges, je suis très bavard !» Et puis il dit à Dieu « Toi aussi, ne te tais pas !» Mais David ne lui donne pas l'occasion. Certains prédicateurs ont analysé l'état actuel des églises évangéliques et il constate qu'on donne une grande importance à la louange, ce qui est une chose merveilleuse, même les concerts de louange. Il y a une grande importance au chant et à la musique, mais ils ont remarqué une lacune qui fait peur. On néglige l'enseignement doctrinal élémentaire, ce qui ouvre évidemment le chemin à des déviations de tout genre. On parle beaucoup et fort, on fait beaucoup de bruit, mais on n'écoute plus. La parole de Dieu, elle n'est pas enseignée. Alors dans 1 Samuel, le chapitre 9, le verset 27, il est dit « Samuel dit à Saül, dis à ton serviteur de passer devant nous, et le serviteur passa devant. « Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Assez bavardé, il faut maintenant écouter la parole de Dieu. Quand nous avons fini de prier, qu'est-ce que nous disons? Nous disons « Amen ». Et « Amen » pour nous, ça veut dire « c'est fini ». On passe à autre chose. Mais Dieu, alors, il va parler quand? La prière est un dialogue. Chacun a droit à la parole. Psaume 46, le verset 11 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Quand un malheur arrive, chacun dit ce qu'il en pense. Et devant le malheur, on parle souvent trop et trop vite. Alors qu'on devrait écouter, c'est la même chose pour Dieu, on devrait écouter Dieu plutôt que de parler sans savoir. C'est comme dans un couple, il y a des couples, c'est toujours le même qui parle ou toujours la même qui parle. Et par la force des choses, avec les années d'expérience, l'autre finit par se taire. Il n'a plus rien à dire, tout a déjà été dit. Alors nous laissons parler Dieu. La parole de Dieu, quand elle est donnée, quand on la discerne, elle est précieuse. Psaume 12, le verset 7 dit « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent épuré au creuset, sept fois épuré. » Souvenez-vous de ce centenier romain qui a dit à Jésus « Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Matthieu 8, 8. Jésus a dit de ce romain qu'il n'a pas vu en Israël une aussi grande foi. Ça, c'est quand même osé de la part du Seigneur. Mais ce centenier a voulu rendre à Dieu sa parole, l'occasion de parler. On pose cette question. Savez-vous pourquoi Dieu a d'abord créé Adam et puis Ève ensuite? Et la réponse est, c'est pour lui permettre à Adam de placer un mot. Bon, c'est une blague, bien sûr. Mais avec toute l'abondance de nos paroles, est-ce que nous permettons à Dieu de placer un mot? C'est à nous de faire silence parfois afin de mieux entendre Dieu. Le théologien Jean Lévesque a dit cette belle phrase, « Le silence intensifie l'écoute. » Et Habacuc 2, le verset 20 dit, « Silence devant lui, terre entière. » Alors, il y a un autre silence de Dieu qui est remarquable dans la parole de Dieu, c'est le silence, bien sûr, de Jésus. Et vous connaissez cette belle histoire de l'eunuque éthiopien qui se trouve dans Acte 8 et qui lisait Ésaïe dans son char et puis qui a pris Philippe pour qu'il lui explique le texte. Philippe était en Samarie où il y avait un magnifique réveil. Puis Dieu lui dit « Va vers le chemin de Gaza, le désert ». Et pour lui, quitter le réveil brusquement n'a pas dû être facile, mais c'était l'obéissance à la parole de Dieu. Puis le Seigneur lui montre un char qui arrive, et Philippe fait du char stop, le char s'arrête, et il continue la route avec cet eunuque qui est en train de lire dans Ésaïe. Et le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci, au verset 32, « Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. » C'est un texte de Ésaïe 53, le verset 7, où il est dit dans l'original deux fois, « Il n'a pas ouvert la bouche. » Et Philippe lui demande, « Comprends-tu ce que tu lis ?»« Non. De qui parle le prophète? Est-ce qu'il parle de lui-même? Comment est-ce que c'est possible? Alors que tout le monde parle, celui-ci n'ouvre pas la bouche. » Alors Philippe en profite pour lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus, et pas à moitié. Il lui a annoncé l'évangile de A à Z. Et il finit bien sûr par le baptiser parce que l'eunuque avait compris, tout compris. Alors oui, le silence de Jésus est surprenant. Lors du procès de Jésus, les quatre évangiles en parlent. Dans Matthieu 26, le souverain sacrificateur se leva et dit « Ne réponds-tu rien ?» Et Jésus garda le silence. En Marc 14, Jésus garda le silence, ne répondit rien. Luc 23, Hérode lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne répondit rien. Et Jean 19, Pilate lui dit « D'où es-tu ?» Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Alors, à chaque étape du jugement de Jésus, Jésus a eu des moments de silence, que ce soit devant le souverain sacrificateur, devant Hérode ou devant Pilate. Et on avait appelé de faux témoins avec des fausses accusations. N'importe quel condamné aurait au moins essayé de se défendre. Et Jésus, en plus, était innocent. Et il connaissait la vérité. Alors pourquoi ce silence? Il y a une raison importante et évidente à ce silence. C'est la décision que Jésus a prise à Gethsémané lorsqu'il a dit « Pas ma volonté, mais la tienne ». Et l'heure était enfin venue, Christ allait souffrir pour le salut de quiconque croit. Rien ne l'empêcherait. La décision était prise à Gethsémané. Il ne chercherait pas à se défendre. Il fallait pas faire rater le salut de l'humanité. Et il ne devait rien dire. Il avait déjà dit oui au Père. Il n'y avait plus rien à ajouter. Il pouvait faire appel à son Père pour qu'il envoie 12 légions d'anges, comme il est dit dans Matthieu 26, 53. 12 légions d'anges. Ça veut dire 12 fois 6 000 anges. Et un jour, Dieu nous révélera combien d'âmes ont été sauvées grâce au silence de Christ. Voyez encore le silence de Christ quand Pierre le nie par 3 fois avant le chant du coq. Jésus ne fait que regarder Pierre. Et Pierre qui croise le regard de Jésus. Il est touché profondément dans son âme et il sort en pleurant de repentir. Dieu n'a pas besoin de parler tout le temps. Son regard, sa présence, parle. Alors, il y a un autre silence dans la parole de Dieu qu'on pourrait appeler le silence par amour. Dans Sophonie, au chapitre 3, il y a ce beau verset, verset 17. « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Littéralement, on peut aussi traduire « il dansera de joie pour toi ». Il existe donc un silence par amour de la part de Dieu. Face à notre passé, c'est vrai, à nos péchés, à nos défauts, il gardera le silence dans son amour. Le silence n'est pas l'absence ici, bien au contraire. Parfois, on a des amis qui ne manquent pas de nous accuser à la moindre erreur. Ce ne sont pas de vrais amis, et il faut bien choisir ses amis, n'est-ce pas? Satan aussi aime accuser pour affaiblir. Mais l'amour de Dieu met tout en œuvre pour notre salut. Voyez l'efficacité du sacrifice de Jésus dans ses annonces prophétiques. Michée 7,19 « Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Alors ça, c'est quand même extraordinaire. Les plus hautes montagnes n'équivalent pas les plus grandes profondeurs des océans. L'Everest est la plus haute montagne du monde, 8848 mètres. Mais la plus grande profondeur est plus grande dans l'océan. C'est moins 11 033 mètres qu'on appelle la fosse des Mariannes au nord des Philippines. Alors Michée dira encore, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Michée 7,19. Écrasé pour toujours. Ésaïe 44,22. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Les nuages, comme ils se forment, ils disparaissent. Merveilleuse comparaison. Une nuée qui vient et qui disparaît. Ésaïe est vraiment le prophète du salut dans l'Ancien Testament et il y a beaucoup, beaucoup de versets magnifiques. Ésaïe 6, verset 7. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Fini, expié, résolu, inexistant. On n'en parle plus. Il garde le silence en son amour. Ésaïe 38, 17. Tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Derrière toi, derrière son dos, pour ne plus y revenir. Ésaïe 43, 25. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Je ne me souviendrai plus. Pardonné et oublié. Comme l'a dit Michée, on ne peut plus clairement. Michée 7, 18. Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité et qui oublie les péchés? Quand Dieu pardonne, il oublie. Et on ne parle plus de ce qui a été oublié. Ézéchiel 33, le verset 16, nous dit « Tous les péchés qu'il a commis sont oubliés ». Psaume 85, le verset 3 « Tu as pardonné l'iniquité, tu as couvert tous ses péchés. » Couvert, caché, rendu invisible. Jean 1, 29, Jean-Baptiste « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Le mot grec ici pour « ôte le péché du monde » veut dire deux choses, qui porte le péché et qui l'emporte. Et cela est vraiment magnifique. Hébreux 9, le verset 26, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Une autre version dit pour abolir le péché par son sacrifice. Alors remarquez quand même la richesse des images employées par Dieu. C'est comme si Dieu ne sait pas encore quelle image employer pour illustrer cette vérité du pardon divin. Nos péchés sont au fond de la mer, écrasés sous ses pieds, évaporés comme un nuage, derrière son dos, oubliés, couverts, emportés, effacés. Pourquoi? À cause de son amour. Il gardera le silence dans son amour. Il fera de toi sa plus grande joie. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Nous avons la faveur de Dieu. Est-ce que nous en sommes bien conscients? La faveur de Dieu vaut mieux que la faveur des humains. La faveur de Dieu a du poids pour l'éternité. La faveur des hommes est relative, elle est éphémère, elle n'apporte rien. On devrait toujours rechercher la faveur de Dieu plus que la faveur des hommes. Alors voici le progrès spirituel auquel Dieu nous invite. Devenir sensible à son cœur. Ressentir sa volonté. Rechercher sa pensée. Devenir la joie de Dieu. Il y a deux références dans le Nouveau Testament où Dieu est appelé bienheureux. C'est 1 Timothée 1:11 et 1 Timothée 6:15. Dieu est appelé le bienheureux parce que le chrétien fait la joie du ciel. Il est dit que quand quelqu'un se convertit, se repent, il fait la joie de tout le ciel. Quand quelqu'un vient à Dieu pour lui appartenir de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa volonté, de tout son être, Dieu est heureux. Alors cherchons la satisfaction de Dieu. Cherchons le bonheur de Dieu, parce que nous sommes son bonheur. Ésaïe 63, le verset 4, dit « On t'appellera mon plaisir, car l'Éternel met son plaisir en toi. » Alors, sixièmement, il y a le silence en attente. Comme il est dit dans Hébreux 1, le verset 1 et 2, « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a créé l'univers. » Dieu parle de plusieurs manières. Il y a eu, dans l'Ancien Testament, de grands prophètes, puis il y a eu des petits prophètes, et puis plus rien. Et entre le dernier verset de Malachie et le premier verset de Matthieu, il y a un long silence, un silence de 400 ans. Il y a eu bien sûr quelques écrits historiques comme Maccabée, Tobie, que les premiers chrétiens n'ont pas considérés comme canoniques, c'est-à-dire qu'on ne les considérait pas comme paroles de Dieu inspirées. 4 siècles. C'est quand même un long silence d'attente. L'attente de la promesse, mais quelle promesse, la venue du Messie. De même, nous aussi, nous souffrons parfois attendre en silence l'accomplissement des promesses de Dieu. Nous attendons la seconde venue du Seigneur. Et les exemples dans la parole de Dieu nous sont donnés, exemples d'attente, comme Abraham, qui avait la promesse d'un fils. Mais l'attente était longue, et il croit voir l'accomplissement dans son assistant, Éliézer de Damas. Mais Dieu lui dit « ce ne sera pas lui ». Et après 13 ans d'attente, il ne voit toujours pas venir son fils, et il veut lui-même accomplir la promesse de Dieu, et Ismaël est né avec sa servante Agar. Mais Dieu lui renouvelle sa promesse. Ce n'est pas lui. Et finalement, Isaac est né. Mais imaginez-vous la désolation pour Abraham quand Dieu lui demande de sacrifier ce fils unique qu'il a attendu si longtemps. Et il va passer là 3 jours affreux dans le silence de Dieu, mais dans l'obéissance et la foi, jusqu'à croire qu'il retrouvera Isaac dans une forme de résurrection, nous dit Hébreux 11. Voilà pourquoi il est appelé le Père des justes par la foi. On pourrait aussi longuement parler de la désolation de Job et de l'absence de révélation de Dieu parce que Job ne savait pas pourquoi il souffrait. Et il est dit dans Job 30, « Je crie vers toi et tu ne réponds pas. » Son épreuve était vraiment une attente d'une meilleure révélation et d'une restauration de Dieu. Mais l'attente était longue. Heureusement, il a gardé la foi. Et il est dit dans Job, à la fin du livre, Job 42, 5, « Quand Dieu s'est révélé à Job, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, et qu'il faut parfois attendre. On ne voit pas Dieu, on ne l'entend pas. C'est là que la foi entre en jeu. Christ, sur la croix, a connu le silence de Dieu. Silence en attente. Quand il s'est écrié, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce qui a fait dire à Jean Lévesque, le théologien français, « Jésus a repris sur la croix la plainte du psalmiste venu du fond des âges. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Psaume 22, 2. Mais quelques instants plus tard, mourant dans un grand cri, il emportait dans sa mort le dernier silence de Dieu. Dans le dernier temps, Dieu parle par le Fils, et le Fils est remplacé par un autre consolateur semblable, identique, le Saint-Esprit, toujours demeurant, toujours présent. Il prend ce qui appartient à Christ et nous l'apporte. Christ a tout porté sur la croix. Il a tout accompli à notre place, y compris l'abandon du Père. Désormais pour le chrétien, le silence de Dieu n'est qu'apparent et le chrétien peut rester confiant. Je termine avec un septième point parce que ça fait bien. Les bienfaits du silence. Quand le silence de Dieu rejoint notre silence confiant, il n'y a que bénéfice. Le silence est réparateur. La force et le calme est dans la confiance, dit Ésaïe 30, le verset 15. Élie l'a expérimenté à Horeb, lorsqu'il est dit dans 1 Roi 19, 11 et 12, « Dieu n'était pas dans le vent fort, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Il était dans un murmure doux et léger. » Et on pourrait encore longuement développer le sujet de l'émerveillement du silence dans la nature, dans la création, le silence dans le calme, la confiance, l'attente, le silence dans la méditation, dans la prière, dans la présence de Dieu, le silence dans la contemplation, le silence même dans l'adoration. Alors que le Seigneur nous aide à tirer bénéfice de tous ces silences pour son bonheur et pour le nôtre. Que le Seigneur vous aide. Amen.
Merci Paul pour ce message, merci à tous ceux qui ont permis que nous puissions être parmi vous via les enregistrements. Je vous rappelle notre rendez-vous de la prière à la maison tous les mardis de 19h à 19h30 et notre synergie avec les communautés de Herstal-Schörath qui n'ont pas repris les cultes non plus. À dimanche prochain, si Dieu le veut, que la grâce et la paix de Jésus notre Seigneur vous accompagnent. Amen.
Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble, prêts à faire ta volonté. S'il est vrai qu'on te ressemble, donne-nous ta sainteté.
Tu as voulu tes enfants heureux,
qu'il en soit ainsi.
Un amour sincère au fond des yeux,
qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas capables, donne-nous de nous aimer. Que nos vies soient acceptables, selon tes desseins parfaits. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures. Où ton cœur de Père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton âme.
soit ainsi. Tu as voulu ton trône établi, qu'il en soit ainsi. Et ton règne sur tout le pays, qu'il en soit ainsi. Nous irons dans ta confiance, enflammés de ton esprit. Nous serons